le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du Salon des maires d'Île-de-France, seconde journée. Nous sommes le mercredi 3 juin. Justement, écoutez, c'est normal, il y a des maires d'Île-de-France qui sont avec nous pour parler justement des sujets de la vie quotidienne des maires. Et c'est un sujet extrêmement important pour nous, vous le savez, parce que les maires sont aujourd'hui aux premières loges. Alors, c'est vrai que je vais paraphraser ce que disait Gérard Larcher à portée de claque des administrés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on voit le maire, on voit le visage de la République. C'est le premier contact qu'on a avec l'institution et avec notre pays. On a deux maires sur le plateau que je suis ravi de recevoir. Mon rendez-vous annuel, voilà, tradition oblige. J'ai le plaisir de recevoir Yann Dubosc. Bonjour Yann.
Bonjour Sylvain.
Yann, maire de Bussy-Saint-Georges et vice-président de l'agglomération de Marne-et-Gondoire en charge des transports. Je ne l'avais pas encore interviewé depuis, mais maintenant on va réparer cette injustice. Il est avec nous sur le plateau, maire d'une commune qui s'appelle Pomponne, c'est Arnaud Brunet.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Arnaud, merci. Parlez surtout bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Vous êtes également Arnaud, vice-président de Marne-et-Gondoire, de l'agglomération de Marne-et-Gondoire, et vous êtes en charge de l'économie circulaire et des circuits courts. C'est tout un programme. Messieurs, je vais commencer par vous Yann.
Oui.
J'aimerais qu'on parle de votre élection.
Oui.
C'est votre troisième mandat.
C'est mon troisième mandat, effectivement.
Avec une très belle réussite qui reflète également, si je peux me permettre, qu'on peut être un maire bâtisseur et un maire vainqueur.
Oui, tout à fait.
Quand je dis bâtisseur, au sens noble du terme, hein, vous n'avez pas bétonné la ville de Bussy-Saint-Georges, vous l'avez transfigurée littéralement. Mmh. Elle est devenue une ville magnifique où il y a toutes les commodités, tout en étant préservée et pratiquement à la campagne. Quoi. C'est un rêve.
C'est un peu l'objectif qu'on avait avec l'équipe, une équipe renouvelée pour les dernières élections de 2026. Mais voilà, on a aussi les outils pour permettre de pouvoir à la fois de bâtir une ville et tout en gardant aussi son aspect verdoyant. Et l'outil du PLU, moi, oblige chaque promoteur d'avoir 45% d'espace vert dans ses réalisations. Donc,
c'est incroyable que vous ayez réussi. C'est vrai, hein, quand on voit l'agglo aujourd'hui.
Oui.
Vous connaissez le territoire, je suppose, de Bussy. C'est, enfin, alors, je fais appel peut-être au côté architecte d'Arnaud, parce que vous êtes architecte de métier, d'avoir préservé ça.
Oui.
Ça demande quoi ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que
demande...
C'est une vraie volonté politique, c'est une vraie ligne directrice.
D'abord,
vous avez imposé à l'aménageur,
oui,
au promoteur de travailler comme vous le souhaitez.
Exactement, parce que moi j'ai une spécificité par rapport à d'autres villes de l'agglo, c'est que moi je suis opération d'intérêt national, donc c'est-à-dire que tout mon foncier appartient à l'aménageur public qui s'appelle Epamarne. Et donc, voilà, on a, nous, imposé notre position, c'est-à-dire de continuer à construire une ville à la campagne. Hein, c'était un peu le symbole et, je dirais, un peu le logo de la ville, c'est la ville des parcs et jardins. Voilà, et donc, on a voulu conserver ça. Moi, j'ai à peu près 4500 logements encore à produire sur mon territoire et chaque lot a son espace vert et en pleine terre. C'est pas simplement des espaces verts artificiels, parce que c'est un peu facile à monter. Et donc, les architectes, les promoteurs se grattent la tête pour pouvoir trouver effectivement des solutions permettant de...
Et ça a accompagné la croissance démographique du territoire et son attractivité.
Évidemment, moi j'ai à peu près, période du Covid, à peu près 1500 habitants de plus par an à accueillir sur ma collectivité.
C'est énorme.
Et donc, t'imagines, entre 2020 et 2026, le nombre de personnes qui sont arrivées et qui sont des électeurs sur la ville et qu'il va falloir aussi traiter de la même manière que les plus anciens. De toute manière, à Bussy, quand tu as 5 ans d'ancienneté, tu es un ancien.
Mais sur les 20 dernières années, c'est quoi ? La commune a doublé de taille ?
Ah oui, elle a doublé de taille, oui, absolument. Et elle va encore doubler de taille. C'est-à-dire que dans les 15 prochaines années, on va
aujourd'hui,
atteindre...
combien d'administrés ?
Aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 habitants. Et il y a 50 ans, nous étions 650 habitants.
C'est énorme. Voilà. C'est extraordinaire. Arnaud Brunet, on est sur une commune plus petite. Hein. On a combien ? On a 4200 habitants. Mmh. Mais vous êtes placé à un carrefour, j'allais dire, on ne pouvait pas rêver mieux. Est très stratégique. Vous êtes à côté de Val-d'Europe, vous êtes à côté de Marne-la-Vallée, vous êtes dans un territoire très attractif. Et là aussi, je constate qu'à Pomponne, vous avez su préserver effectivement un équilibre urbain.
Alors oui, la problématique est différente. Nous, on est vraiment véritablement dans le cœur historique de Marne-et-Gondoire, on va dire comme ça, puisqu'on est on est de l'autre côté de la Marne par rapport à Lagny-sur-Marne et du même côté que Torigny. Et en plus, on est au pied de la gare. Donc effectivement, là, on est à une problématique où ce qu'on appelle le PLH, le plan local de l'habitat, qui découle des injonctions du SCOT, c'est un peu technique, mais qui nous oblige à faire du logement. On y reviendra peut-être
SCOT,
tout à l'heure.
Juste pour ceux qui nous écoutent, SCOT, ça veut dire
schéma de cohérence territoriale.
Voilà.
Donc c'est le PLU de l'agglo.
Voilà, c'est le PLU de l'agglo. Voilà, voilà, là, on a compris.
Qui est décliné en PLU communal ensuite. Eh bien, dans ce SCOT, donc ce PLU de l'agglo, on nous réclame un nombre de logements donc qu'on essaye de satisfaire, parce qu'évidemment, il y a une crise de logement, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est véritable la problématique des maires aujourd'hui. Et donc là, ce qu'il fallait faire, c'est effectivement, dans le PLU, trouver les équilibres, comme le disait Yann tout à l'heure, entre les espaces naturels, finalement, à préserver, et les espaces à urbaniser, puisqu'urbaniser à côté d'une gare, c'est quand même aussi... très vertueux, notamment en termes de mobilité, bien sûr.
Quand je vous dis que Pomponne est un carrefour stratégique, vous confirmez ?
Alors oui, c'est-à-dire qu'on est aux portes du Grand Paris,
mais
sans
oui.
en avoir
mais
les
oui.
inconvénients, même s'il y a des avantages
mais
à l'aide.
Non, mais on peut le dire, on peut le dire. Il n'y a pas d'inconvénient là-dessus.
Moi, j'en trouve pas à mon échelle sur ma problématique, dire pomponnaise. Ça, c'est certain, parce que ça s'arrête à Shell. Et on est, on va dire même touristiquement, on est entre Disney et puis Paris. C'est-à-dire qu'en plus on a un enjeu par rapport à ça et sans être
d'enjeu
attiré
hôtelier.
Un enjeu,
ceux qui vont
un enjeu
Disney,
économique.
Il y a
même un enjeu
global,
économique de l'agglomération.
C'est pas une ville qu'on traverse uniquement, hein, on est d'accord.
Alors, on la traverse quand même mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont actifs. Donc effectivement, c'est une ville qui est à 20 minutes de Paris. Enfin, moi, pour ma profession, je suis à 20 minutes de mon boulot qui est à Paris, Gare de l'Est.
C'est très clair.
Donc voilà. Donc c'est une ville de 4200 habitants, dans une agglomération qui, comme l'exprime Yann, a à cœur de partager les espaces naturels et les espaces urbanisés. Donc il y a presque un modèle urbanistique qui est monté, porté par effectivement les Pamarnes, mais pas uniquement. C'est une philosophie qu'on partage, je pense, au sein de l'agglomération, parmi les 20 maires que compose cette agglomération. Et puis on fait notre part de... Donc nous, par exemple, on a créé un cœur de ville, mais qui sera un cœur de ville vert, cœur de ville non construit.
Alors justement, vous, quand on va à Pomponne, on voit des immeubles collectifs.
Absolument.
Mais beaucoup de maisons individuelles.
De moins en moins.
Alors, non mais, moi j'aime bien, moi je vous le dis, j'aime bien, je trouve ça bien. Est-ce qu'il n'y a pas justement, alors c'est ma question, alors vous allez me livrer votre analyse, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité à garder lorsqu'on est une ville comme la vôtre, qui n'est pas enclavée mais qui est au carrefour de beaucoup d'une géographie stratégique, de garder ce côté sympathique, très agréable que trouve, et parce que je le vois quand on va à Pomponne, d'ailleurs je connais un de vos adjoints très bien, justement, sa maison, la proximité avec les champs, une déambulation bucolique, tout en ayant les aménités qui vont bien à côté. Ou est-ce que vous dites, soyez honnête, à un moment donné, il faudra peut-être arrêter qu'on puisse faire de la maison individuelle et aller plus dur de collectif. C'est une vision.
Il faut faire de tout. De toute façon, c'est un équilibre.
Oui,
donc il faut continuer à faire de tout. Maintenant c'est la conjoncture économique qui fait qu'on ne peut pas accéder à une maison individuelle comme on peut accéder aujourd'hui. Même le logement social est très cher. Hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. Hein, surtout
alors le logement social, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au taquet
On est très vertueux. On est à 28,8 selon les derniers chiffres.
Énorme.
C'est-à-dire qu'on est dans une ville.
Vous êtes à 3% de l'imposition de la loi SRU.
Royal.
Comment c'est. C'est le fruit d'une politique successive.
C'est le fruit d'une politique qui date d'il y a longtemps, des années 70, où effectivement il y a eu un lotissement dont vous parlez tout à l'heure.
Bien sûr.
Qui était un lotissement qui était monté par ce qu'on appelle aujourd'hui ICF, la Sablière.
Oui.
Avec une répartition des logements aidés, je les appelle comme cela, qui a été bien faite sur l'ensemble du territoire. Il n'y a aucune ghettoisation par rapport à des quartiers. Tout ça vit en très bonne intelligence. Donc je pense que c'est l'équilibre. Et donc là, aujourd'hui, votre étonnement est finalement un bon témoignage. C'est qu'il n'y a aucun moyen de considérer qu'à Pomponne, on est au-delà des injonctions de la loi SRU.
C'est très clair. Donc c'est intéressant. Parce que à Bussy, est-ce qu'on est au taquet de la loi SRU ?
Alors nous, on s'en approche. Hein. On doit être aujourd'hui à 22-23% parce que comme on continue à construire...
Il y a pas mal.
Là, quand je fais du privé, ça fait baisser ma note sociale. Et quand je fais du social, ça la fait augmenter. L'objectif, bien évidemment, c'est d'atteindre les 25% de la loi SRU. Mais comme le dit Arnaud, l'assiette foncière, y compris pour les bailleurs, coûte de plus en plus cher. Et l'aménageur, effectivement, qui vend des charges foncières, aujourd'hui, doit faire face lui aussi a une difficulté aujourd'hui.
Mais elle coûte plus cher parce que ceux qui vendent du foncier le vendent cher ou
alors parce que effectivement,
parce que s'attendre à ce qu'un opérateur public qui a du foncier le fasse. Je ne vais pas dire à prix coûtant, mais à prix bas.
Non, mais tu as des coûts de construction qui sont un petit peu moins chers, mais tu as un prix de l'achat de foncière qui, lui, effectivement, reste identique. Donc, tu te retrouves aujourd'hui à faire du logement social de plus en plus cher.
Et avec
des bailleurs qui, pendant des années et des années, avaient des réserves financières assez incroyables et qui, aujourd'hui, ne les ont plus. Donc, faire du social, aujourd'hui, devient aussi complexe que de faire...
Est-ce que ça veut dire... Mais il n'y a aucun levier qui permettrait de réduire ce problème-là de l'achat de foncière.
Aujourd'hui, en tout cas...
Qu'on pourrait, politiquement, dire on peut réduire l'accès au foncier de manière globale?
Non, parce que c'est du privé la plupart du temps. Et d'accord. Le privé, c'est le marché. Et le marché
sauf si on propose au privé un donnant-donnant.
Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, effectivement, les promoteurs, même si aujourd'hui au salon, tu les vois revenir un petit peu plus en force que les années précédentes, mais tu te retrouves, effectivement...
50% de rétractation de marché.
Bien sûr. Donc, tu as plusieurs crises qui se sont succédées. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Le Covid, ensuite, effectivement, la crise bancaire. Moi, je ne me passe pas du côté des promoteurs, je me place toujours du côté des accédants. Et des accédants aujourd'hui, là où avant Covid, tu t'as acheté un 4 pièces pour le même prix, aujourd'hui, c'est 3 pièces. Donc même ta typologie d'habitants est en train de changer. Moi, je regarde attentivement dans les négociations qu'on peut avoir avec les PAMARN, les 4 pièces ou les 5 pièces, tu n'en as quasiment plus. C'est-à-dire que la moyenne, le médian aujourd'hui, c'est 3 pièces pour un prix du 4 ou 5.
La crise, elle te touche forcément.
Oui.
Très directement.
Oui.
Tu as des administrés désespérés qui viennent à la mairie pour les réclamer, pour ses enfants, pour les places en crèche.
Bien sûr.
Pour des jeunes actifs qui parfois même vont renoncer au job parce qu'ils ne trouveront pas de logement. Est-ce qu'à Pomponne, on trouve les mêmes angoisses des salariés? Vous le savez, Arnaud. Aujourd'hui, il y a des salariés qui renoncent à des jobs parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas se loger. Et là où ils vivent est beaucoup trop éloigné de l'emploi. Il y a un vrai sujet, emploi-logement. Comment on arrive à résoudre cette situation? Ou quelle vision vous avez, à l'instar de ce que vient de vous dire Yann?
Alors, en fait, c'est assez complexe. C'est aussi le temps long. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux urgences, mais il y a aussi un temps long. On voit aussi qu'aujourd'hui, la natalité n'est plus la même. J'étends un peu le débat parce que parfois...
On serait même sur une dénatalité.
On est d'accord.
2025, 651 000 décès contre 645 000 naissances. Tu sais que c'est la première fois, c'est la première fois dans notre pays qu'on traverse une année aussi négative. Enfin, c'est juste impressionnant.
Et donc effectivement, nous, notre pouvoir sur ce thème-là est assez limité, puisque là on parle de macroéconomie, on parle de la conjoncture économique du pays. On essaye finalement d'accompagner le mieux possible. Alors les logements dits sociaux, en fait, ils sont accessibles à quasiment tout le monde aujourd'hui. Les conditions d'accession au logement social, et comme je disais tout à l'heure, il y a des loyers qui sont assez élevés. Donc nous, notre responsabilité, j'ai envie de dire, c'est de construire déjà là où certains refusent de construire, pardon de le dire, à côté d'une gare.
Est-ce qu'on peut dire justement que vous, Arnaud, vous êtes un maire plutôt constructeur-bâtisseur, au sens noble du terme? J'ai pas dit de bétonner, j'ai pas dit de... Voilà, est-ce que vous êtes dans
cette... le même sens que...
Absolument.
Que pour...
Non mais Yann a
bien
fait
sûr.
La démonstration.
Bien sûr.
Voilà, il a fait la démonstration que les administrés, quand on leur parle, parce qu'il y a aussi tout un travail de concertation que tu as mené, un travail d'embarquement de l'ensemble des administrés. De toute façon, tu n'aurais pas été réélu si ce n'était pas le cas. La sanction, elle est rapide dans les urnes, justement. Est-ce que ça vous inspire, justement, dans ce schéma-là, de se dire, parce que je connais certains de vos collègues en Ile-de-France, ils ne veulent plus construire du tout. Ils seraient même, pour certains, limite à prôner, c'est très à la mode, la décroissance.
Voilà. Oui. Alors, non, on ne peut pas prôner ça. Enfin, à mon sens, on ne peut pas prôner ça aujourd'hui. En tout cas, on n'est pas à l'endroit où il faut le prôner. Philosophe ou économiste, mais je suis maire de ma commune.
On peut bâtir à
Pomponne. Alors, on peut bâtir. Non, mais on peut déjà répondre à la demande.
Oui.
Il manque des logements.
On peut y répondre?
Oui, en autorisant et en maîtrisant, et comme le disait Yann, en faisant la meilleure inscription possible à intégration architecturale, urbanistique et paysagère des bâtiments dans le tissu urbain. De toute façon, les villes sont toujours faites sur les villes. En l'occurrence, ça, c'est ça notre responsabilité, c'est de continuer à faire des villes sur les villes et non pas de continuer l'expansion des villes. Ça, c'est clair et net, parce que ça a une répercussion évidemment sur la mobilité, bien évidemment. Donc, notre responsabilité, c'est de construire pour les gens qui n'ont pas de logement. C'est ça la réalité. Et encore plus à côté d'une gare. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'avoir en plus un moyen de locomotion.
Alors, on a très bien justement compris qu'effectivement, vous étiez engagé là-dessus. Il y a un deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est celui des effets de levier. Du pouvoir des maires, du pouvoir réel des maires, d'accord, face disons-le, à une intrusion jacobine ou une volonté jacobine de l'État à contrôler ce que font les maires, parfois même à les déconsidérer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous assistons, et on le dit d'ailleurs chaque année avec vous, Yann, à chaque fois on en parle, avec des transferts de compétences sans association de recettes. Oui. La question est, si on prend une photo à date, là, Yann, on va commencer par vous, est-ce que la situation sur les dotations, sur votre budget vis-à-vis d'un État centralisateur s'est améliorée ou plutôt s'est dégradée ?
Elle s'est fortement dégradée parce que non seulement aujourd'hui les dotations baissent, mais on fait surtout des ponctions fiscales sur les communes.
On a une idée des pourcentages de dotations chez... Prenons Buchy. Oui. C'est quoi la baisse de dotation depuis, par exemple, la suppression de la taxe foncière ?
Ah bah, c'est simple. Moi, je ne vais pas te le donner en pourcentage, mais je vais te le donner en argent pur, oui, et sonnant. Oui. C'est, oui, que moi, je perds depuis à peu près 10 ans 4 millions d'euros de dotation d'État par an.
Waouh !
4 millions.
Ça fait 40 millions en 10 ans.
Exactement. Donc ça veut dire que derrière, non seulement tu as cette perte qui permet difficilement de pouvoir effectuer nos programmes politiques pour lesquels on a été élu, mais surtout aujourd'hui, ce sont les ponctions fiscales que l'État fait sur la contribution à la dette nationale. Ça fait 2 ans que l'Odilico, je dirais,
nous menace. Nonobstant le fait qu'on a des dotations qui baissent, oui, de 4 millions d'euros par an, oui, depuis 10 ans, là c'est,
oui,
éloquent,
oui,
en plus...
Oui.
Tu te fais ponctionner fiscalement.
Exactement.
C'est une double peine, ça.
C'est une double peine, une triple peine, c'est tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens, par nous-mêmes, sur nos budgets, de mener une politique sociale pour nos communes.
De quelle nature sont ces ponctions fiscales ? Est-ce qu'on peut mettre un nom dessus ?
Bah oui, ça s'appelle le DILICO. C'est un joli nom, mais qui cache une vérité. C'est que nous participons, nous communes, nous interco,
ça veut dire quoi, ça,
au financement de la dette. C'est-à-dire que, alors je ne sais plus l'acronyme exact, mais grosso modo...
de lissage,
ouais,
je ne sais plus.
C'est ça. Et en fait, on vient te dire qu'à la source,
c'est un dispositif qui met à contribution les maires,
voilà, c'est ça,
pour éponger la dette nationale.
En fait, on va prendre sur tes recettes fiscales pour aller alimenter, je dirais, une contribution à la dette nationale. C'est un truc absolument incroyable. Donc ça t'enlève, exactement, Arnaud, de la trésorerie. Ça t'enlève, un levier fiscal. Bah, moi, aujourd'hui, au niveau de l'agglo, c'est quasiment 4 millions d'euros qui ont été perçus.
Donc ça veut dire... Sur une année,
Sur une année.
En plus des 4 millions que tu perds en baisse de dotation.
Et moi, c'est, à titre personnel sur ma commune, c'est 700 000 euros. Plus 300 000, effectivement, au titre du foncier industriel. Donc résultat, tu te retrouves avec plus d'activités, plus de demandes, plus de sollicitations de la part de l'État en disant « Allez, sur tel domaine et dans lequel effectivement vous devrez aller faire des dépenses publiques » et on nous retire des recettes fiscales à la source. Tu ne négocies pas. On va te prendre à la source, effectivement, le montant pour aller contribuer sur une dette nationale dont nous ne sommes pas responsables.
Alors, si j'ai bien compris... Vous confirmez ce que dit Yann ?
Oui.
Alors les volumes ne sont pas les mêmes, je suppose ?
Alors moi, je n'ai pas ce dispositif-là, parce que étant une petite ville, et en plus étant moins capé financièrement,
c'est ça.
On n'est pas impacté par ce dispositif. Voilà. Mais l'agglo l'est, donc on l'est par la bande.
Mais oui,
et on l'est,
mais oui,
indirectement.
Mais bien sûr, parce que si je récapitule, Yann, sans faire de parti pris politique, si on était strictement basique, on a des dotations sur les 10 dernières années, dotations... Oui. Mais les amis, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a des dotations, c'est une capacité qu'a l'État de donner un peu de mou, entre guillemets, aux maires.
La DGF.
Voilà, pour pouvoir faire vivre la ville, travailler ses aménagements, bien évidemment.
Absolument.
Il y avait la taxe d'habitation, oui, qui était une bonne ressource, oui, qui t'a été supprimée.
Oui.
La compensation à l'euro près, c'était, j'allais dire un mot en anglais qui commence par B, mais bon, enfin, mais bref.
Aujourd'hui, force est de constater que la compensation sur la taxe d'habitation, elle est au centime d'euros près.
Ouais.
Par contre, demain, tu n'as aucune certitude. Et comme le disait Arnaud, on est sur le temps long. Quand tu construis tes budgets, tu ne les construis pas simplement sur l'année. Tu as un plan pluriannuel d'investissement.
Mais bien sûr.
Et sur lequel, effectivement, tu te dis, j'espère que l'année prochaine, on me garantira cette taxe d'habitation.
En rappelant que toi, on vous oblige, messieurs les maires, à être à l'équilibre budgétaire.
Ah bah évidemment.
Arnaud Brunet.
Oui, la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, moi, je vais aller jusqu'à dire que c'était une arnaque.
Oui.
Ah oui, merci de le dire. Merci de le dire.
Aussi pour une chose, alors, hormis le fait que du coup on n'a plus aucun levier à part celui de la taxe foncière, qui du coup n'agit que sur les propriétaires, la taxe d'habitation, elle crée quand même un lien fiscal du contribuable qui pouvait être locataire. Donc tous les habitants de la commune, en théorie, payaient
l'impôt,
qui était locataire et propriétaire, payaient cet impôt-là. ce qui est très différent au point de vue de la contribution. Quelque part, je laisse mon papier gras par terre. Si je ne suis que locataire, ça n'a pas d'incidence fiscale. Alors évidemment, ça a une incidence par la bande, parce que l'argent qui est dépensé à ramasser le papier n'est pas dépensé ailleurs, peut-être pour un des services qu'il utilise. Cependant, je ne pense pas que le truchement intellectuel aille jusque-là. La suppression de la taxe d'habitation a vraiment supprimer ce lien qui existait entre un administré qui pouvait être locataire, et le maire. Et ça, c'est essentiel.
Et quand tu cumules une arnaque avec un scandale, et ça te fait qu'aujourd'hui, je dirais, tu as énormément de maires qui, en 2026, ne se sont pas représentés à cause de ça.
Oui.
Parce que derrière, tu as une pression de la
population. On a des chiffres jusqu'à 30%.
Mais bien sûr.
C'est fou.
Et t'imagines en 2032 ou 33 ce que va donner. Donc, résultat, aujourd'hui, on transfère des responsabilités pénales. On nous demande d'aller sur du domaine judiciaire, on nous demande d'aller sur du domaine fiscal, on nous demande. Et puis finalement, au final, tu as des dépenses supplémentaires, tu n'as pas de recettes supplémentaires. Et comme tu es bon élève, parce que moi j'ai réduit ma dette par deux, eh bien on vient te dire, vous allez rire. C'est que vous êtes un bon élève, mais je vais vous sanctionner parce que je vais aller vous piquer de l'argent pour aller financer une dette de mauvais élèves. Donc, à un moment donné, tu te dis...
Non, mais je trouve ça génial.
Et Arnaud avait raison de dire arnaque sur la taxe d'habitation, mais parce que finalement, philosophiquement, même si financièrement, on s'en sort plutôt bien sur cet aspect-là, on n'a plus aucun levier fiscal pour dire, tiens, on va s'endetter pour faire un gymnase et on va le rembourser effectivement par l'impôt. Et de l'autre côté, on te dit, mais tiens, maintenant, vous allez participer à une dette nationale. Ça, c'est un vrai scandale.
C'est très clair. Il me reste 2 minutes. Oui. Je voudrais que vous donniez la parole à chacun. On va commencer par vous, Arnaud Brunet. On peut pas ne pas évoquer cette question qui est les échéances majeures que nous allons vivre en 2027. Ça va être très clair. On va vivre un moment institutionnel. Il y a fort à parier que la présidence de la République, une fois qu'elle sera gagnée par l'un ou l'autre des partis, procédera à la dissolution de l'Assemblée nationale pour recomposer une majorité. C'est normal.
C'est normal.
Normal. Parce qu'a priori, le mandat, c'est 2029, mais justement, le président, dès qu'il sera installé, il est probable, logique, vous êtes d'accord, qu'il y aura une nouvelle composition à l'Assemblée nationale. Je ne vous demande pas votre avis pour qui vous allez voter, ni qui pour qui vous soutenez, ce n'est pas le sujet de la politique.
On ne sait pas encore.
Mais si vous pouvez le dire, à la limite, vous le dites. Mais ce que je veux dire, c'est quoi, à l'instar de cette échéance qui va être très singulière, puisque c'est la fin du macronisme, enfin, je vais dire enfin, voilà, c'est quoi la vision d'Arnaud Brunet à la tête d'une commune comme Pomponne de l'année qui vient, qu'il y en ait écharnière.
Alors, la vision, moi, j'ai pas franchement de vision. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais être très exigeant par rapport aux promesses ou aux programmes. S'il y a bien des gens qui doivent lire un programme, pardon de le dire, c'est les maires et les responsables locaux. Parce que nous, on est effectivement à portée de baffe, comme le disait le président Larcher. Et en l'occurrence, souvenez-vous que la suppression de cette taxe d'habitation avait été annoncée à un congrès en 2017 par Emmanuel Macron, qui est devenu président ensuite.
Bien
quelque
sûr.
Part, il a pris personne en traite.
Il avait annoncé.
Vous débrouillerez après, sauf qu'on voit ce que ça veut dire débrouiller. Ouais. Donc, regardez ce que ça implique, et vous parliez peut-être de la sécurité. C'est vrai que ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des demandes régaliennes au niveau local et qui devraient être faites au niveau de l'État. Donc ça, c'est essentiel. Il faudra bien regarder les discours par rapport à ça.
C'est très clair. Et ensuite, vous êtes beaucoup de maires d'ailleurs à le dire sur ce sujet.
Oui, il faut remettre
la sécurité.
À ce sujet-là, l'église au milieu des villages.
Absolument.
Sur ce point-là. Sinon, ça veut dire qu'on va avoir des villes qui vont être en plus à géométrie variable et les villes qui pourront se payer la sécurité et celles qui ne pourront pas.
C'est très clair. Yann Dubosc.
Mais on l'avait vu aussi dans nos campagnes municipales, la sécurité, c'est le premier sujet. Quoi qu'il arrive, la fiscalité, le cadre de vie sont des éléments importants, mais la première préoccupation de nos administrés était la sécurité. Donc comme le dit Arnaud, moi je vais être aussi très attentif à ce qu'on nous propose en sécurité, parce que beaucoup de promesses, beaucoup d'éléments. Moi je trouve qu'en France, aujourd'hui, on a une problématique assez importante qui n'est pas la problématique policière, qui est la problématique de la justice. Je te donne un exemple très concret avec les derniers matchs de foot qui se sont déroulés.
Bien sûr.
Tu chopes des mineurs ou des jeunes adultes, donc tu prends le risque aussi d'aller les chercher, que ce soit la police municipale ou la police nationale. Et 2 heures après, tu les retrouves dans la rue parce qu'on a considéré effectivement que c'était
et
pas...
Donc, et donc tu serais favorable à un durcissement justement.
Mais il le faut. C'est pas que je suis favorable, c'est une exigence formelle effectivement d'avoir une justice qui réponde effectivement à ce que la police fait aujourd'hui.
C'est une bonne conclusion. Voilà, je suis désolé, mais je dois rendre l'antenne.
Il n'y a pas de souci.
On passerait beaucoup plus de temps avec vous, mais c'était important. Et c'est important que vous preniez cette parole, une parole pas molle, pas une parole tienne, une parole clairement engagée. Merci Arnaud Brunet.
Merci.
Arnaud Brunet, maire de Pomponne, vice-président de l'agglomération Marne-et-Gondoise en charge de l'économie circulaire. Un immense merci à Yann Dubosc. Tu sais qu'il est toujours bien vu. Tu es chez toi, chez nous.
Oui.
Tu es maire de Bussy-Saint-Georges, vice-président en charge des transports à Marne-et-Gondoise. On fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Je serai dans quelques instants en duplex avec Perico Legas, justement. On parlera du salon des maires d'Île-de-France en actualité brûlante, bien évidemment. A tout de suite.
Merci.
Merci.
Le salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Imo et Radio Territoria.